culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour et bienvenue au Culte Espoir. C'est toujours une grande joie de te retrouver. Nous voilà réunis pour vivre ensemble 60 minutes de partage, de louanges et d'enrichissement spirituel. L'équipe d'aujourd'hui est impatiente de te présenter tout ce qui a été préparé. C'est bien ça, Marilyn, Stéphane?
Oui, oui.
Oui, tout à fait.
Allez, très bien. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à tous.
Joyeuse Pâques.
Joyeuse Pâques.
Notre invité du jour est sagement assis et prêt à intervenir. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Salut, bienvenue.
Merci beaucoup.
C'est déjà ta troisième participation en Occulte Espoir et c'est vraiment très sympa de t'avoir parmi nous.
Merci, on ne voit pas le temps passer.
Ah ben oui, ça passe vite. Alors Olivier, tu es pasteur, tu es président de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Suisse romande et du Tessin. Qu'est-ce que cela signifie concrètement?
C'est un ministère, c'est un appel de Dieu, une vocation que j'ai eue très jeune, à 20 ans. Et depuis, ben, c'est ce désir de servir, d'être un serviteur, servir Dieu, servir les hommes. Et c'est un métier passionnant, le plus beau métier, entre guillemets, du monde.
Oh là là! Et à part cela, tu es aussi papa, tu es époux, quoi d'autre?
Ben, c'est déjà pas mal.
Ah, mais oui, c'est bien, mais est-ce que tu fais du sport?
Oui, oui, jusqu'au jour où j'ai eu le Covid, ça m'a un petit peu calmé. Okay. Mais oui, j'aime bien la course à pied, l'endurance, et puis voilà, ça entretient bien.
Bah, c'est très bien, continue comme ça.
Et puis le ski aussi, voilà, j'ai grandi dans les Alpes françaises, donc depuis tout petit, je pratique le ski.
Bah, oui, ça va de soi.
Voilà.
Nous t'avons invité à participer avec nos équipes et aujourd'hui, voilà, tu nous consacres actuellement 4 émissions sur le thème de la Pâque.
C'est ça.
Avec toi, nous vivons les derniers moments de la vie de Jésus sur terre, juste avant sa mort, malheureusement. Nous avons déjà parlé de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples, ensuite de Jésus qui est le pain qui rassasie toute âme. Et aujourd'hui,
eh bien, pour cette troisième émission, nous allons réfléchir à la symbolique du vin que Jésus va partager avec ses disciples après le pain. Un appel non pas à boire un coup, mais à faire une alliance éternelle avec Jésus-Christ.
Et c'est merveilleux. Nous ne pouvons pas vivre sans nous nourrir. Si on arrête de manger et de boire, notre vie s'arrêtera au bout de quelques jours. Jésus est venu sur terre pour nous donner une vie pleine. Il a tout laissé pour toi et pour moi. Son sang a coulé sur la croix et avec lui, nous sommes convaincus que la vie est plus forte que la mort. Reste avec nous, chers auditeurs, ce n'est que le début de cette émission. Et nous voilà pour la chronique « Dieu dans ma semaine ». C'est avec toi, Marilyn.
Et voilà, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te plier en quatre pour quelqu'un ? De le dépanner et qu'au bout du compte, cette personne ne réalise pas trop ce que tu as fait pour elle.
Oh là 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 là.
C'est un peu frustrant, même très frustrant. Et dans notre relation avec Dieu, je crois que ça peut arriver aussi. Ou en lisant toutes ces belles choses que Dieu y fait, tout cet amour dans la Bible, eh bien, on est... Ouais, voilà. Ça fait rien. Et... C'est quelque chose qui m'est arrivé dernièrement en lisant un beau message qui racontait l'amour de Dieu. Puis j'ai dit, ok, ça devrait faire quelque chose. Alors je suis retournée au passage où je sais que c'est l'endroit que je préfère, qui me parle de l'amour de Jésus. Ce passage, il est dans Jean 13, au verset 1. Et il est dit, « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble de son amour pour eux. » Et ça m'avait depuis longtemps marqué. C'est ça que j'aime bien, c'est mettre le comble de son amour. Ça me touche parce que Le comble, c'est beaucoup, non? Et j'avais réentendu dans un petit sketch un petit dialogue. Dieu, aimes-tu les hommes plus que les femmes? Et Dieu lui répond, ne sais-tu pas que je t'aime? Alors la fille s'énerve un petit peu. C'est pas la question! Et puis finalement, elle se rappelle alors la croix et les différents moments qu'elle a vécu avec Dieu. Et elle doit bien avouer que oui, elle sait que Dieu l'aime et elle se rappelle alors les preuves de son amour. Et puis Dieu lui demande, cet amour est-il suffisant? Cet amour est-il insuffisant de quelque façon pour toi? Est-ce que je le retiens d'une quelque façon? Et ces répliques, en lisant ce verset, que Jésus a mis le comble de son amour pour eux, elles ont fait écho dans ma tête. Est-ce que, Marilyn, mettre le comble de mon amour pour toi, c'est suffisant? Est-ce qu'il manque quelque chose à cet amour ou est-ce que j'ai retenu une partie de cet amour que j'ai pour toi? Je te garantis, j'avais compris. Oui, Dieu a tout donné par amour pour chacun de nous, pour toi, pour moi, et ceci malgré qu'on l'ait accueilli ou pas, malgré qu'on lui dise merci ou malgré qu'on le voit pas. C'est un petit exemple, mais je sais que Dieu sait utiliser toutes ces petites choses que nous avons autour de nous, qui nous nourrissent, qui nous apportent, pour nous parler, nous interpeller, nous remettre sur les rails des fois. Et je prie que toi aussi, cet amour incroyable de Dieu puisse te toucher d'une façon toute personnelle en ce temps de Pâques.
En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis.
Oh, oh. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux il apparaît, et d'entre les morts.
Par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle, Jésus le maître de ma vie. Du malin ne peut m'arracher. je tiendrai et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai.
On rêve de bonnes nouvelles. Quelle est la promesse que tu nous apportes, Stéphane ?
Aujourd'hui, la promesse a comme titre « L'amour de Dieu, une assurance certaine ». On peut la trouver dans le livre de Romains 8, les versets 31 à 37. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec lui ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il a ressuscité. Il est à droite de Dieu, il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arriver à l'amour de Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ? Car il nous arrive ce qui dit à l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à la longueur du jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, comme nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Waouh, c'est un grand amour, un amour qui est puissant. Quelle promesse avec ses multiples aspects. Merci Stéphane. Face à la condamnation, à l'accusation, il y a un argument pour ceux qui croient en Jésus. Comme dit cette promesse, Jésus est mort, son sang a coulé. C'est cette action qui déclare que malgré leur culpabilité, ils ne peuvent plus être accusés. C'est puissant, non ? Et ça me fait penser à un chant. Ton sang parle mieux. Je te laisse l'écouter et être interpellé.
Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux. Tous les vains discours entendus sur la terre, il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus est ton sang. Sur son trône, apporte.
portons la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme. Béni, adorable. Avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Pour trop épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié au prince de la vie. La mort est asservie. Il est le maître souverain. Les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême.
Quel immense amour! Jésus s'est sacrifié pour nous. Il a donné sa vie pour assurer notre vie éternelle. Chaque fois que je vois une image de la mort de Jésus sur la croix, je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de pleurer. Le sang sur son front, sur tout son corps, c'est quelque chose d'impressionnant. Est-ce que vous avez déjà perdu beaucoup de sang ou encore vous avez peut-être déjà été témoin d'une scène ensanglantée?
Oui.
Ouais. C'est dur, hein? Alors, j'ai discuté avec Jacinto. Il m'a raconté un événement de sa vie où il y avait du sang et il a dû faire preuve de beaucoup, beaucoup de courage. Je partage avec vous son témoignage. Bonjour Jacinto, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre culte. J'aimerais que tu nous racontes cette aventure, ce drame même que tu as vécu il y a quelques temps. Tu habitais bien loin d'ici.
C'était en Guinée-Bissau.
Ok, tu avais plus ou moins 12 ans.
12, 11 ans. Et on était plusieurs enfants de 5 à 14 ans.
Ok.
Et on est parti de chez nous pour aller dans un terrain que nos voisins avaient acheté. Avec leurs enfants, on est allé pour connaître. Et comme vous savez, les enfants, dès qu'on trouve des endroits comme ça, on commence à jouer. Alors, quand on est arrivé là-bas, bon, c'était un endroit que ce n'était pas propice pour jouer, ni pour faire quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait pas d'endroit, c'était encombrant. Il y avait plein de choses. Et malheureusement, il y avait des verres aussi.
Et ça,
il y avait
dangereux.
Une bouteille qui était cassée. Et nous, on n'a pas vu ça. Et mon frère, en courant, un d'autres garçons, des amis qui étaient avec nous, l'a fait un croche-pied. En faisant le croche-pied, il est tombé violemment par terre.
Oh là là.
Et quand il est tombé sur le dos, Il a tellement raflé le verre qu'il a fait un trou dans son dos. Alors, il a commencé à saigner, mais à saigner comme il faut. Et moi, en voyant ça, on était tous paniqués.
Bien sûr.
Paniqués. Moi, je voyais qu'il perdait beaucoup de sang. J'avais rien, rien du tout. On était dans la brousse, on peut dire. Mm-hmm. Et quand j'ai pris mon frère, j'ai mis sur mon dos. Et j'ai commencé à courir. Il faisait chaud. Ça, je ne vais pas dire.
J'imagine bien.
Il faisait tellement chaud. Et mon frère, comme tellement il a perdu de sang, il a commencé presque à s'évanouir. Oh. Alors, en arrivant, on a trouvé une maison où j'avais des connaissances. La dame m'a tout de suite donné un foulard. Et moi, j'ai essayé de faire un bandage. J'ai mis là pour appuyer aussi, pour faire compresse. À mon âge, je ne savais pas si ça existait, mais je dis que ça pouvait empêcher le sang de couler trop. Impossible, ça commençait, le sang...
Il continuait à perdre du sang.
À perdre beaucoup de sang, il s'est imbibé. Et quelques kilomètres plus loin, il y avait des amis, mes parents qui m'ont vu, ils avaient une voiture, ils ont tout de suite pris mon frère, ils sont partis à l'hôpital. Et moi, alors, je suis rentré à la maison pour aller annoncer cette drame à la famille. Et quand je suis arrivé, la pauvre, ma mère, quand je lui ai dit ça, la pauvre, elle rentrait, elle sortait. Elle dit, est-ce que je vais à l'hôpital ou je ne vais pas? Après, c'est avec ma soeur aînée qu'on est parti à l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, de loin, on voit un infirmier, qui est une connaissance à la famille aussi, qui nous a tout de suite vus, nous a dit, tranquille. Et tout s'est bien passé. Ton frère, il a été pris au bloc opératoire parce ils l'ont pris au bloc opératoire parce que tellement la plaie était profonde qu'il fallait faire une intervention. Alors là, il a eu 19 points de suture.
19 points.
19 points de suture. Et à son âge, vous voyez, c'était terrible. Et moi, j'avais peur de perdre mon frère. Et aussi, comme j'étais responsable, je n'étais pas le plus aîné, mais c'est mon frère. Mm-hmm. Alors, moi, je devais m'occuper. Alors, je me sentais tellement culpabilisé. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Mm-hmm. Et tout au long de ce drame, j'ai vu quand même qu'il y a des occasions où je voyais la main de Dieu.
Franchement, des personnes
qui venaient m'aider. Et après, toutes les distances que j'ai courues, et aujourd'hui,
ça fait plus ou moins combien de kilomètres?
De là où on était, de la maison où on était, ça faisait une vingtaine de kilomètres, c'est pas plus. Et après, chaque fois, chaque 2-3 kilomètres, j'ai trouvé des secours. Alors c'est pour ça que je dis...
Ça te réconfortait.
Ça me donnait du confort parce que moi, j'étais désespéré. Parce que
Écoutez, tu as vu ton frère perdre beaucoup de sang.
Perdu beaucoup de sang. Je dis, mais il ne va pas supporter ça. Étant donné qu'il était petit, il était déjà maigre de nature. Alors je dis, mais ce n'est pas possible. Mais je n'ai pas lâché la prise parce que j'ai dit, il faut que mon frère soit sauvé et qu'il vienne à la vie.
Et heureusement... Et c'était par amour que tu as réussi à porter ton frère.
Ben oui, c'est pour ça que j'ai dit, mais avec la chaleur qu'il faisait. Bon, moi, j'étais costaud quand j'étais petit. Alors, j'ai pu supporter ce secousse de courir, mais il fallait dire que je courais de toutes mes forces. Et chaque fois, je voyais encore le chemin plus loin, mais je crois qu'à ce moment-là, bon, moi, depuis petit, j'étais toujours croyant. Je croyais en Dieu. Je dis, mais Dieu ne va pas me laisser mon frère partir comme ça, parce que je serais culpabilisé toute ma vie. Mais heureusement, on a pu faire ça et je remercie le Seigneur. Et tout au long de ma vie, je l'ai vu sa main agir dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai 67 ans et je continue à croire en ce Dieu parce que je sais que malgré tout ce qui se passe, mais il ne nous laisse jamais seuls.
Amen. Ça, c'est vrai. Mmh. Et ce que tu as vécu avec ton frère, c'était vraiment un grand sacrifice.
Ben oui. Mais je ne veux pas égaliser ce sacrifice à celui de Jésus. Parce que moi, j'ai fait ça parce que c'est mon frère, c'est le cadet de la famille. On l'aimait beaucoup et tout. Et c'est pour ça que je dis... quand je vois que moi, je suis avec lui, que j'ai fait tout ça, et Jésus, Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous?
Qui a fait beaucoup plus.
Pour nous, il a fait plus pour nous, parce qu'il a même donné sa vie, son sang. Et c'est ça que je dis, le sang, comme j'ai mis là, c'est la vie. Je voyais la vie de mon frère partir parce qu'il perdait beaucoup de sang. Mm-hmm. Et Jésus, il a fait ça pour nous, alors c'est merveilleux.
Amen. Merci beaucoup pour ton partage.
Avec plaisir.
Et continue ferme avec foi.
Ah oui, toujours, je serai toujours dans la foi, malgré tous les problèmes, tout ce que je rencontre, je sais que Dieu ne nous laisse jamais seuls.
Amen.
On est toujours avec. Et merci à toi pour ce moment.
Quel courage, Jacinto a sauvé la vie de son frère. Nous savons que le sang est précieux. Si on perd une trop grande quantité de sang, on meurt. Olivier, que peux-tu dire sur Jésus, celui qui n'a pas hésité à donner sa vie pour nous?
Pour cette troisième émission, ce troisième partage, nous sommes toujours les spectateurs de ce dernier repas lors de cette fête de Pâques avec Jésus et ses disciples. Après deux émissions, l'une sur ce geste du Christ lavant les pieds de ses disciples et celui du partage du pain de vie, seul capable de nourrir et désaltérer les besoins les plus profonds de notre âme. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la symbolique du vin, justement, que Jésus a partagé lors du repas de Pâques. Alors, je vous invite à lire le passage dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22, verset 20. Le texte dit que Jésus prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Paul dira dans 1 Corinthiens 11, 25, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Le thème de l'alliance ressort clairement de tous ces textes en rapport avec la coupe de vin. À travers ce vin ou ce jus de raisin, selon les sensibilités, Jésus nous inviterait donc à réaliser une alliance avec lui. Ah, tiens, sympa. Et quelle alliance? Une alliance d'amour et de réconciliation avec Dieu. Hein? Alors, la question qui se pose pour nous, c'est que signifie cette nouvelle alliance que Dieu propose? Et que veut dire aussi une alliance de sang? La nouvelle alliance n'est en réalité pas si nouvelle que ça, puisque depuis que l'homme s'est coupé de Dieu et a rompu justement cette alliance d'amour et de paix, Dieu n'a cessé de chercher à renouer ce dialogue et ce lien avec l'humanité. Depuis Adam, passant par Abraham, jusqu'à Jésus, Dieu a conclu des alliances de paix avec les hommes. Et peut-être ce sera à notre tour de faire cette alliance de paix. On peut donc le constater dès le début avec l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. D'ailleurs, quelle était la première parole que Dieu a adressée à Adam et Ève alors qu'ils venaient de briser justement cette alliance divine? La première question, la première parole n'est pas un reproche, pas une accusation, mais juste une question. Où es-tu? Ce sont les premières paroles de Dieu. Face à cette humanité qui vit à ce moment-là dans la peur, la culpabilité ou la honte. Par cette question, Dieu, on le voit, ne s'impose pas, mais il se propose. Il nous appelle bien plus, peut-être qu'il nous interpelle. Où es-tu? Où en es-tu? Qu'es-tu devenu depuis tant d'années, si loin de moi, séparé? Et comment tu vas aujourd'hui? Cette question est au présent pour nous dire que Dieu vient dans notre présent, dans notre histoire présente, là où nous sommes, et là tel que nous sommes, avec nos fautes, nos blessures, nos fissures, seuls, cachés au milieu des arbres, des grandes villes, de la foule anonyme. Parfois, on a l'impression d'être justement qu'un numéro perdu au milieu de cette grande foule. Mais Dieu vient envers chacun de nous parce que nous sommes tous précieux et uniques à ses yeux. Je crois qu'en chacun de nous, il y a toujours une petite voix pour nous interpeller, qui par des questions nous invite à réfléchir plus en profondeur sur nos attentes, sur notre situation et sur ce que l'on désire vraiment dans notre vie. Bien souvent, on s'est contenté de vivre ou parfois même de survivre, sans se poser trop de questions. Mais alors, des situations, des expériences, une émission vient nous interpeller et une petite voix vient nous poser cette question. Où es-tu? Oseras-tu répondre à cette petite voix intérieure en toi? après avoir rejeté une première fois l'appel de Dieu dans le jardin, jardin de son cœur, et avoir préféré fuir, le récit de Genèse 3 nous dit que à un moment donné, Adam va accepter de répondre à cette question de Dieu et dire ce qu'il ressent et ce qu'il vit. C'est un grand pas. Il répondit, on peut le lire dans Genèse 3 au verset 10, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Donc il répondit, c'est Adam. « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » La voix de Dieu fait peur parce que nous sommes nus. Parce que cette parole nous renvoie à nous-mêmes, à notre nudité intérieure, à nos actes manqués, à nos souffrances et blessures, peut-être finalement à tout ce qu'on n'a pas trop envie de voir. Alors notre réflexe, à l'image d'Adam et Ève, c'est de nous couvrir en nous faisant des habits, un habit de feuilles de figuier pour eux. Pour nous, nos habits sont peut-être un peu plus sophistiqués. Mais l'idée, c'est de se cacher de Dieu, des autres et aussi de soi-même. Qu'il est dur ce regard sur soi dans toute sa vérité, dans toute sa cruauté parfois. Alors l'homme moderne, il court. Alors, je ne sais pas si vous faites pareil, mais c'est vrai qu'on court beaucoup hein, dans ce monde.
Sans arrêt.
Sans arrêt, sans relâche. On travaille à combler ce qui nous manque par le travail, la famille, les loisirs, l'argent, le sexe. Un résultat assez mitigé et contradictoire entre le personnage qui parfois donne l'air d'être accompli, heureux, maître de son destin, au contrôle... Et la personne qui, elle, le moi réel, avec ses doutes, ses peurs, ses culpabilités, ses luttes intérieures, ses conflits, à la fois satisfaits, à la fois insatisfaits. Cet homme et cette femme qui ne parviennent pas à se sentir pleinement heureux ou épanoui. C'est comme s'il y avait en nous un vide, une sorte de fissure intérieure, un peu comme ce puits sans fond de la femme samaritaine. Ouais. Que nous ne parvenons pas à combler. Et je voudrais citer un auteur que j'aime beaucoup, Louis Evely, qui dit ceci le livre « C'est toi cet homme ». Il dit « Notre âme est vaste. Ainsi, son exigence est immense. Il ne lui faut pas moins que Dieu. Notre plus grande erreur est de croire qu'il ne nous manque jamais qu'une chose, juste une petite chose pour être heureux. Un peu plus d'argent, un avancement, un peu de chance. » Que cette maladie soit guérie, cette attente finie, ce mauvais moment passé. Mais alors, nous ne serons jamais heureux, car il y a toujours une autre maladie, une autre attente, une autre envie. C'est Dieu qui nous manque. C'est Dieu, entre guillemets, la chose qui nous manque. Et il ne nous manque pas, nous lui manquons.
Oh, c'est beau, c'est beau.
Alors Jésus, dans ce dernier repas de la Pâque, mis le comble à son amour parce que nous lui manquons plus que lui nous manque vraiment. Et il tente de susciter en nous ce manque et d'éveiller en nous et de nous dire que ce manque en nous, c'est peut-être lui. C'est peut-être ce pain dont nous avons parlé, dont nous avons besoin, qui seul peut rassasier notre cœur, notre esprit, notre âme. Il vient à nous, à toi, cher auditeur, et tend une nouvelle fois ce pain qui rassasie. Et il rajoute ce vin qui symbolise quelque chose de plus, le sang d'une alliance d'amour, de paix, une alliance éternelle, dit la Bible. Parce que Dieu est éternel et qu'il est fidèle à son alliance. Mais que signifie une alliance de sang? Pourquoi ce sang? À l'époque de l'Ancien Testament, une alliance se concluait souvent par le sang, le sacrifice d'un animal. Elle représentait la forme d'alliance la plus solennelle et la plus irrévocable. Telles étaient les alliances que Dieu a établies dès le début, que ce soit avec Adam, puis Cain et Abel, hein, c'est aussi une histoire de sacrifice, Abraham, et jusque finalement au Messie, à Jésus-Christ, qui allait accomplir lui-même cette alliance, mais cette fois-ci, pas avec le sang d'un animal, mais avec son propre sang, le sang du Fils de Dieu lui-même. Donc on voit que c'est une alliance toute particulière. Ça paraît incroyable que Dieu établit une alliance avec son sang. Pourtant, il n'y a rien de si étonnant que ça. Si on revient dès le départ, qu'est-ce que vous remarquez avec cette histoire de Adam et Ève de Genèse 3? Il est dit dans Genèse 3:21 que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Dieu les couvrit d'un autre habit fait non pas de feuilles de figuier comme le premier qui avait été fait par l'homme pour se couvrir par lui-même, par sa propre force, mais un habit de peau réalisé cette fois-ci par Dieu lui-même. Dans la Bible, l'habit est le symbole de la grâce de Dieu qui couvre l'homme de son pardon, de son amour et de sa justice. Cet habit apporte finalement la solution à quoi ? À la nudité de l'homme. Et la nudité qui symbolise ce sentiment de vide, de solitude, ce sentiment, ces peurs, ces sentiments de honte que chacun de nous pouvons éprouver en nous-mêmes. Parfois, cette solitude. Alors, Dieu, par cet habit, il veut nous couvrir de sa paix, de son pardon. Avec cet habit, nul besoin de fuir ou de se cacher, car tout a été mis en lumière et tout a été réglé avec Dieu. Et pour cela, Dieu va aussi choisir un tissu étonnant pour fabriquer ce vêtement. Eh bien oui, c'est un vêtement de peau, une peau de bête. Une peau qui va être prise d'un animal que Dieu va devoir
tuer,
faire mourir, qu'il va sacrifier pour couvrir la nudité de l'homme. Voilà, en fait, le premier sacrifice de sang dans la Bible. Eh bien, ce n'est pas un sacrifice que l'homme a fait, c'est bien le sacrifice que Dieu a fait. Ce n'est pas un sacrifice que l'homme a fait pour Dieu, mais que Dieu a fait pour l'homme.
Ouais, parce que souvent, on dit même que le premier sacrifice, c'était Adam, Ève, ses enfants. Mais finalement, non, c'est Dieu qui a fait le premier sacrifice.
Tout à fait. Et c'est peut-être autour de cette idée-là que les enfants Cain et Abel vont se disputer. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce que j'ai toujours cru, et les religions peut-être même ont toujours cru, que c'est l'homme qui devait faire un sacrifice pour Dieu en sa faveur, pour lui plaire et s'assurer de sa bénédiction. J'étais presque un peu choqué de réaliser que le premier sacrifice, c'est celui de Dieu. En faveur des hommes, pas pour nous plaire, pour nous plaire et pour nous dire qu'il nous aime. On croyait voir en ces sacrifices peut-être la colère de Dieu qu'il fallait apaiser par nos dons et nos offrandes. Mais ici, on découvre finalement l'amour de Dieu envers l'homme, apaisant son angoisse en le couvrant d'un vêtement de grâce et de pardon qu'il a confectionné spécialement pour lui. On croyait voir dans ces sacrifices de sang peut-être la méchanceté, la cruauté de Dieu. Mais en fait, on y voit notre propre violence, notre propre cruauté dont Dieu désire nous couvrir et nous libérer. Et nous pardonner. On croyait voir peut-être la punition, le châtiment de Dieu, mais on découvre un Dieu qui porte lui-même le poids de notre faute, le jugement et la punition que nos injustices méritaient. C'est toutes ces choses que symbolise finalement le sacrifice du Christ, qui est finalement le sacrifice parfait, l'accomplissement annoncé par ce premier sacrifice au jardin d'Éden. Dieu n'a pas voulu la mort, mais face à nos choix, il va accepter de l'assumer lui-même. Cet animal et tous ces sacrifices qui suivront représentent ce premier sacrifice, non des hommes, mais de Dieu, comme je l'ai dit. Et le sang du Christ, représenté par ce vin, symbolise ce sacrifice de Dieu pour les hommes. Un sacrifice parfait, car il est divin celui-ci, pas humain. Et donc, il sauve l'homme parfaitement, parce que ce n'est pas l'homme qui se sauve, c'est Dieu qui le sauve. Quelle assurance de se savoir sauvé par Dieu et de savoir que ce n'est pas à nous de nous sauver par nous-mêmes, mais que nous avons juste à prendre ce pain, ce vin que nous tend le Christ, prendre cette chair et ce sang, cette vie du Christ, accepter ce sacrifice qui me couvre, qui m'habille, qui me revêt, qui me rassure, qui me redonne une pleine identité, et par cette alliance d'accepter de retourner à la maison du Père et de redevenir son enfant. Et c'est par cette alliance d'amour que nous devenons aussi une même plante avec le Christ et que nous partageons tout avec lui. Ainsi, son sang, c'est notre sang. Sa mort, c'est notre mort. Son jugement, c'est notre jugement. Sa résurrection, c'est notre résurrection aussi. Sa vie, ça devient aussi notre vie. Et sa victoire sur la mort, c'est aussi notre victoire sur la mort, puisque par cette alliance, nous sommes devenus un avec lui, comme l'homme et la femme deviennent un par une alliance d'amour. Quel beau don que Dieu nous fait. Alors, dernière question, comment vivre cette alliance? Eh bien, elle peut se vivre concrètement par le baptême d'eau et d'esprit. Et que te faut-il pour être baptisé? Facile, croire que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, croire de tout ton cœur et qu'il couvre ta nudité, ta vie de son amour et de sa justice par son sacrifice parfait pour toi. Et ainsi, tu seras sauvé parfaitement. Amen.
Amen. En préparant cette chronique, j'ai découvert l'histoire d'un chant bien connu par plusieurs d'entre vous, auditeurs sûrement, et par chacun d'entre vous dans ce studio. Une caractéristique qui m'a plu et surprise, c'est que bien qu'écrit en anglais, il est local. Alors je m'explique. Les studios d'Espoir Radio se situent à Renan, vers Lausanne.
Oui.
Et ce chant a été composé à Lausanne.
Ah,
ok. 1992.
Ah oui.
D'accord.
Il date un petit peu. David Durham est un compositeur américain qui est venu s'installer en Suisse avec son épouse Rebecca au début des années 1990. Et il a entre autres travaillé pendant 6 ans pour Jeunesse en Mission. Lors d'une rencontre de travail au chalet à Gobet, juste au-dessus de Lausanne, une collègue a mentionné un texte des Hébreux, Hébreux 2, verset 3, qui l'a marqué. Et ce texte dit ceci : comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ces mots, un si grand salut, sont restés gravés dans sa tête. Et quelque temps plus tard, à l'école où il enseigne, l'école Psalmodia, devant son piano, lui vient une mélodie avec des paroles. Il dit que c'est rare qu'un chant lui vienne, mélodie et paroles, en même temps. Son épouse va l'aider à terminer cette composition, qui est du coup sa première composition en Suisse, écrite en anglais. Pour la version française, on lui a indiqué Thierry Ostrini, qui revenait justement de l'étranger, qui habitait Lausanne, et ils lui ont proposé de terminer la traduction. Et c'est cette version française que je vous propose d'écouter attentivement. Il s'agit du chant « Un si grand miracle
oh. ».
Patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux
Chers chroniqueurs, chers auditeurs, lors du culte du 2 avril, qui avait comme thème « Seigneur, tu me laves les pieds », nous avons échangé sur nos souvenirs du lavement des pieds. Aujourd'hui, je vous propose d'échanger sur qui vient après, la Sainte Cène. J'ai vécu il y a quelques années en arrière, lors d'un petit week-end avec mon église, une Sainte Cène très spéciale. C'était vendredi soir, tout le monde est arrivé. Et nous étions tous, femmes, enfants, hommes, le pasteur, environ 100 personnes, hein, le petit week-end de l'église, habillés comme le peuple d'Israël.
Ah
c'était
oui,
obligatoire, tout le monde habillé en peuple d'Israël, même
comme
le pasteur.
L'époque.
Comme à l'époque, avec des sandales, avec les habits, avec tout, grand, tout ce qu'il faut. Vraiment ambiance, même le pasteur était habillé comme nous. Il y avait plusieurs pasteurs, c'était vraiment superbe. Et d'abord, on a commencé par laver les pieds, ensuite on a tous monté au salon et là il y avait une table, une grande table avec des fruits secs, de la noix, du pain, du mousse, vraiment le banquet, bien sûr le pain sans levain et le vin pour qu'on puisse vraiment faire la Sainte Cène finale. Musique d'ambiance juive, vraiment de l'époque. Et le pasteur commence par une réflexion sur la première Pâque, le Pessah, et explique comment Dieu a fait pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. À ce sujet, pour les auditeurs, auditrices qui souhaitent avoir plus d'explications, l'année dernière, nous avons fait une série de deux cultes espoirs sur la Pâque, de l'esclavage à la liberté.
Oui, c'est vrai.
Où nous expliquerons justement les origines de la Pâque. Vous pouvez retrouver sur notre canal YouTube. Mais en revenant à mon histoire, tout le monde a participé à la Sainte Cène. On a mangé le pain, le vin. Et pour terminer, le pasteur va vraiment en parallèle entre le soir de la Pâque, la Pâque juive, plus précisément le sacrifice de l'agneau, son sang sur la porte qui a sauvé le peuple d'Israël, et le sacrifice de Jésus par amour et son sang sur la croix qui nous sauve. Cette nuit, c'était vraiment un moment très spécial.
Ah ouais, j'imagine.
Un beau moment vécu en famille, en amis, tout le monde ensemble.
Ah bah c'est
maintenant,
top.
Cher chroniqueur Olivier, est-ce que vous avez une scène spéciale à nous raconter?
Vas-y, Marilyn.
Ben moi, j'ai un souvenir de la Sainte-Seine pendant le premier confinement. On avait fait une Sainte-Seine en direct, chacun chez soi.
Je me rappelle.
Et à ce moment-là, j'étais avec ma grand-mère et ma grand-mère ne vient plus à l'église depuis plusieurs années. Et c'était l'occasion de la préparer, de se mettre au fourneau, préparer le pain, prévoir le jus de raisin et de vivre ce moment avec elle. Et je sais qu'elle a été très touchée, moi aussi, de pouvoir revivre quelque chose comme ça qu'elle vivait plus depuis un moment. Et c'était vraiment beau.
Ah, c'est chouette.
Ouais, joli.
Alors, moi, j'ai vécu aussi quelque chose qui ressemble à la Sainte-Seine dans ton église. Mais on n'était pas habillés comme à l'époque. Hein. On était habillés comme aujourd'hui. Alors, ça s'est passé dans mon église. Déjà, quelques jours avant cette cérémonie, notre pasteur avait demandé qu'on lise plusieurs fois dans la semaine la prière de Jésus pour ses disciples. Et après ça, tout le monde se retrouvait le jeudi soir pour un banquet, aussi une belle table avec du pain sans levain, le vin, la boisson, le jus de fruits. Et il y a eu un moment de partage biblique, de réflexion, et on s'est quitté tard le soir. Le lendemain, le vendredi, nous nous sommes retrouvés à l'église. Il y a eu des chants un peu tristes. Nous avons vu l'extrait d'un film sur la vie de Jésus, surtout sur la partie où on racontait la trahison de Jésus, sa mort et la mise au tombeau. Et ça, c'était le vendredi. Et le samedi, troisième jour, on était tous dispersés, comme les disciples à l'époque. Donc chacun, on s'est retrouvés dans d'autres familles. Et comme les disciples qui étaient cachés, qui avaient peur. Alors nous avons vécu ça aussi. Et c'était vraiment très, très, très sympa. Et le dimanche matin, très tôt, il fallait qu'on soit à l'église avant qu'il fasse jour. Donc, on était tous là. L'église était remplie. On avait des bougies dans les mains. C'était vraiment chouette. Et après, quand le soleil se levait, c'était aussi la résurrection de Jésus. C'était vraiment un très beau moment. Je garde précieusement dans mon cœur. J'espère pouvoir revivre cela. Et avec nos amis, nos frères et sœurs de l'église en Jésus-Christ, on avait le cœur qui battait beaucoup plus fort. Et on avait là la certitude de l'amour de Jésus pour nous. Et toi, Olivier?
C'est une histoire, un souvenir qui me vient, qui est assez marrant comme ça spontanément. C'est, j'étais petit, je devais avoir 7 ou 8 ans. Puis de temps en temps, on allait à l'église pour peut-être de grandes occasions, à l'église catholique. Et je me souviens, je regardais toujours cette hostie avec envie. Et je disais, pourquoi ils peuvent manger cette hostie et pas moi? Et quelque chose un peu mystérieux, mais voilà, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette hostie? Puisque enfant, on ne peut pas y toucher, y avoir
droit. Les enfants ne peuvent pas partir.
Ouais, c'est ça. Et je me souviens bien de cette scène-là où je regardais avec envie. Et puis, ça me rappelle, après mon baptême, j'ai pris ma première Sainte-Seine à l'église et je me souviens de... Là,
tu as pu manger.
Là, j'ai pu manger ce pain et boire ce vin, mais pas comme un enfant qui désire quelque chose qu'il ne comprend pas, mais c'était en lien avec mon baptême, avec mon alliance, mon engagement.
Et il y avait toute une autre signification.
Voilà, et j'ai vraiment vécu ce moment d'une manière très forte, cette communion spirituelle avec Dieu, de ce Dieu qui s'est donné à moi. Et voilà, c'était une autre dimension cette fois-ci.
Ah, c'est top. Quand on regarde la vie de Jésus, nous pouvons sans doute tirer tant de leçons. Je suis reconnaissante à Dieu pour tout ce qui a été mis en place pour nous. On prie ensemble? Je t'invite, cher auditeur, à joindre tes pensées et ton cœur à notre équipe maintenant et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, tu as tellement fait pour moi. Tu es allé jusqu'au bout. Ton sang a été versé pour moi parce que tu m'aimes. Je ne suis pas digne de ton amour. Personne ne mérite ton sacrifice. Ton amour divin est un mystère pour le cœur humain. On n'arrive pas à tout comprendre. Je te demande seulement de nous aider à t'accepter comme notre sauveur. Nous voulons honorer ton sacrifice et t'aimer par-dessus tout.
Seigneur, notre Père, nous voulons te remercier pour ta présence et cet amour que tu as prouvé et manifesté en venant à nous, en donnant la vie, cette vie si précieuse, ce sacrifice qui nous couvre et qui nous remplit de ta paix et de ta présence. Seigneur, nous voulons prier que chacun de nous puissions accueillir et recevoir cette paix qui vient de toi et entrer dans la joie de ton salut et de cette vie abondante et éternelle que tu nous offres gratuitement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bon, voilà, nous avons beaucoup discuté. C'était très intéressant tout ça. Et Marilyn, à toi maintenant le défi. De quelle façon tu vas nous proposer une action très concrète pour que nous puissions assimiler une fois pour toutes le sujet d'aujourd'hui?
Alors, je vais vous proposer une certaine façon cette semaine de la lecture. Ou de l'écoute, si vous préférez, la Bible audio, c'est aussi possible.
Ah oui, c'est
voilà,
aussi.
En fait... à votre convenance. Mais il faudra une Bible de la nature que vous voulez, un stylo et du papier. Je te propose de lire ce passage difficile de Jésus à la croix. Il est tellement puissant. Choisis un évangile et prends un moment ou plusieurs pour lire ce passage. Ça peut par exemple être celui qui est raconté dans Luc 22 et 23 ou dans l'évangile de Matthieu ou dans l'évangile de Marc. Prends celui qui te parle. Et lors de ta lecture, je te propose d'être attentif aux personnages. Autour de la croix, il y a beaucoup de monde. Un peu avant, à la croix directement, il y a beaucoup de monde qui sont en interaction entre eux, mais aussi avec Jésus. Fais une colonne ou une catégorie pour chacun des personnages ou groupe de personnages qui est nommé. Et puis reprends ta lecture et en dessous, note leurs paroles, leurs attitudes ou leurs émotions. Particulièrement vis-à-vis de Jésus, en fait. Est-ce qu'ils vont se moquer? Est-ce qu'ils vont rire? Est-ce qu'ils vont pleurer? Est-ce qu'ils vont être loin? Est-ce qu'ils vont être prêts? Peut-être que d'autres choses vont te sauter aux yeux aussi que tu n'avais pas vu dans ces passages. Tu peux les noter. Et je te propose de prendre un temps de réflexion pour te placer toi aussi dans ce grand panorama. Où te situerais-tu? Et tu peux ensuite échanger avec Dieu à ce sujet, au sujet de ce que tu as découvert, ce qui t'a parlé. En tout cas, que Dieu puisse se révéler à toi dans cette expérience.
Ah oui, voilà une action remplie de réflexion. Merci beaucoup mes amis chroniqueurs d'avoir mis en place l'émission d'aujourd'hui. Bravo, vous avez relevé un super défi. Merci. Olivier, je te remercie aussi pour le message, pour ta présence tout le long de ce culte. La semaine prochaine, tu reviens, n'est-ce pas? C'est ta dernière mission. Oui. Quel sera le thème abordé?
Ben justement, c'était la question de mettre le comble à son amour. Donc, on a déjà préparé un peu le terrain.
Chers amis qui nous écoutent, toute l'équipe te remercie d'avoir été avec nous. Je souhaite qu'en cette période pascale, la véritable signification de cette fête soit intégrée et acceptée chez toi. Pâques est le passage de la mort à la vie. Nous commémorons la résurrection de Jésus-Christ et je souhaite qu'il soit toujours vivant et présent dans ta vie.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.